attendez une seconde, tu cadrais.
Quand tu veux.
Monsieur Manelbert, un première.
Emmanuel Berle ce vendredi, cavalier seul.
Mon oncle Alfred Berle m'avait demandé qu'est-ce que tu veux être quand tu seras grand. Et j'avais répondu que je voulais être un grand esprit. Ce qui était une très fâcheuse façon de prendre les choses. Comprenez, si j'avais dit que j'aurais voulu être un grand romancier, un grand poète, un grand peintre, j'avais quelque chance. Grand esprit, ça veut rien dire du tout. Et je crois que c'est mauvais. Je crois, vous dites qu'il faut vouloir faire des choses. Or, grand esprit, ça veut dire qu'il ne fait rien.
Ou qui du moins ne produit pas toute l'œuvre attendue. Il est vrai qu'avec l'héritage que lui laissa sa famille, Berle put longtemps butiner sans avoir à travailler vraiment. Il choisit aussi une forme de facilité en faisant le journaliste. Il dirigea, au milieu des années 30, l'hebdo le plus prestigieux de l'époque, Marianne. Berle, petit, mince, la bouche gourmande, la conversation fertile, la mèche sur le front s'agitant en tous sens, fut fondamentalement un séducteur. Mieux, un amoureux. Sa dispute sur ce sujet avec Proust reste fameuse. À l'inverse de l'écrivain, il soutenait que l'amour n'est pas qu'une illusion que nous entretenons pour nous rassurer. Et il vérifia son hypothèse dans le réel. Le couple inattendu qu'il forma avec la chanteuse Mireille se révéla indestructible. Dans les années 1960-1970, il bénéficia d'un moment de grâce. Avec le petit conservatoire de la chanson de Mireille, il fut même entouré dans ses dernières années par Françoise Hardy et Jacques Dutronc. Jean d'Ormesson, François Mitterrand, Patrick Modiano brûlaient de s'entretenir avec lui et ses livres connaissaient un regain. Il mourut dans la lumière en 1976. Mais depuis, il est redevenu un objet de division. Dans leur récent livre de controverse, Elisabeth de Fontenay et Alain Finkielkraut se disputent sur son compte. La première ne comprend pas qu'un juif ait pu, à la fin des années 30, défendre la fermeture des frontières aux réfugiés et, l'été 40, rédiger plusieurs des messages du maréchal Pétain. En revanche, Finkielkraut aime en lui celui qui n'écrit pas pour dire ce qu'il pense, mais pour le savoir. Et oui, Finkielkraut a d'une certaine manière raison. Berle fut un grand écrivain mineur, mais comment concevoir qu'il comprenait mieux ses adversaires que lui-même?
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Un livre d'Olivier Philippona qui reprend une enquête ancienne de Patrick Lienhardt vient de sortir chez Vuibert sous le titre que nous lui avons emprunté, Berle, cavalier seul. La naissance de Berle, c'est 1892, au Vésinet, dans une famille d'industriels. L'enfance, c'est dans les beaux quartiers, à Paris, mais les beaux quartiers peuvent être des sépulcres.
Monsieur Manuel Berle, un premier.
Vous pensez que, vous dites que votre enfance a été manquée à cause de la maladie.
Oh, ben ça, oui, j'ai eu une enfance atroce. D'abord, j'ai été malade moi-même. J'ai tout le temps été malade. Alors, comme d'autres pères, ma mère est tombée malade après la mort de mon frère, qu'elle était toujours couchée, qu'une fois même je sais qu'elle s'était levée, que j'avais été tout étonné de voir comme elle était grande, parce que j'étais habitué à ne la voir que couchée. Alors, après ça, mon père est tombé très malade, il est mort, n'est-ce pas, à 38 ans, ma mère est morte 2 ans après, mon cousin Henri Franck est mort, donc à 23 ans, après avoir été malade pendant plus de 2 ans, alors évidemment, tout ça, ça a été extrêmement noir. J'ai eu une enfance très très noire. Et puis alors, j'ai pris la mort d'autant plus au sérieux, n'est-ce pas? C'est beaucoup la faute à ma mère. Ma mère vivait dans le culte des morts. Alors, je vivais dans les photographies, dans les dessins représentant les gens de ma famille sur leur lit de mort. Et donc c'était toujours présent à mon esprit. Et l'idée que les morts valaient plus que les vivants était fondamentale chez moi. J'avais honte d'être vivant. Et n'est-ce pas, ma mère était... elle était très jolie, elle avait l'air d'une vierge espagnole, elle avait des cheveux qui tombaient sur ses talons, mais elle était extrêmement tendre, elle s'est beaucoup occupée de moi, elle faisait les mêmes versions latines que moi, elle faisait tous les devoirs que je faisais, mais elle était spirituellement et intellectuellement très dure, c'est-à-dire qu'elle me considérait comme rien du tout. Ou du moins, moi, j'en ai eu l'impression.
Ce que ne dit pas au premier abord Berle, c'est que sa famille est juive. Il faudrait plutôt dire d'ailleurs israélite, une famille républicaine qui se veut assimilée, mais que l'affaire Dreyfus a tenu en alerte. La mort précoce de ses parents a fait d'Emmanuel Berle un héritier. Il poursuit des études sans effort, a noté un séjour à l'université de Fribourg. En 1912, il n'est pas du genre à crier « Haro » sur l'Allemagne. Et maintenant, essayez de reconnaître la voix de celui qui interroge Berle.
Quelle est votre expérience de la guerre ?
Je l'ai faite, pas tellement, mais enfin, je l'ai faite tout de même très sérieusement, comme soldat de deuxième classe, de septembre 14 à la fin de 1915. J'ai tout de même connu le bois le prêtre, là, dans la période la plus mauvaise. J'ai trouvé ça horrible. Au bois le prêtre, on a vraiment été sonné. Et j'ai eu la croix de guerre à Tannes, parce que j'étais dans la rue avec un officier de l'état-major de l'armée qui était venu nous voir, et il était en train d'expliquer à la population comment faire pour se défendre contre les obus. Alors il s'était mis dans une rue transversale, malheureusement il était tombé un obus juste devant la rue transversale qu'il avait tué. Alors je l'ai porté de mon mieux jusqu'à l'hôpital de Tannes, et l'armée qui voulait honorer son officier d'état-major m'a décoré pour ça.
Un chanteur maison, vous l'avez reconnu, quadragénaire alors. Berle avoue qu'il y eut des jours où la peur le cloua dans la cave et d'autres où il circulait allègrement sous les obus. En tout cas, il est dorénavant bien décidé à n'entrer jamais dans un engrenage d'affrontement franco-allemand qui conduirait mécaniquement à une autre guerre. Parmi les correspondants qu'il avait sous l'uniforme, il faut compter Proust.
Entretien avec Emmanuel Berle par Jean d'Ormesson.
Ce que je voudrais vous demander maintenant, c'est l'impression vécue que vous a donnée Proust. Tout le monde rappelle aujourd'hui, enfin du moins les survivants, rappellent aujourd'hui ce qu'était cette conversation éblouissante. Vous étiez un jeune homme quand vous l'avez connu. Quelle impression vous a-t-elle laissé ?
Ce qui était le plus frappant, c'était que Proust parlait comme il écrivait. Une fois, je me rappelle, il a tournoyé autour de moi pendant 5 minutes, me demandant si mon grand-père n'avait jamais eu de relation avec Georges Sand, et du côté de ma grand-mère non plus. Et une fois assuré tout ça, il m'a dit, dans ces conditions, je peux bien vous dire que je trouve les romans de Georges Sand très mauvais. Mais il n'osait pas me le dire sans avoir pris toutes les précautions. Lui qui devait après me dire des choses tellement désagréables. Et la façon, les parenthèses, d'ailleurs, les lettres de Proust sont des brouillons du temps retrouvé. Et alors, il m'a envoyé d'énormes lettres. J'en ai une de 75 pages sur l'amour et la jalousie, qui étaient en quelque sorte des brouillons. Parce que moi, j'étais à ce moment-là à la guerre, et la question de la jalousie se posait pas beaucoup pour moi, puisque j'avais pas de fille. Mais ça fait rien, il m'envoyait donc ses brouillons, par gentillesse, comme des cadeaux, que vraiment j'aurais dû mieux conserver.
C'était sa participation à l'effort de guerre.
C'était l'idée que j'étais combattant, oui, a beaucoup joué dans mes rapports avec lui.
Et au bout d'un moment, Berle vit souvent en Proust un maître à décevoir. Proust lui répétait, l'objet aimé ne correspond pas à l'image qu'on s'en fait. L'amour est une construction de notre esprit, Odette et Swann, etc. Et le jeune Emmanuel ne voulait pas le croire. Un jour, il n'en a plus pu. Vous ne faites en somme aucune distinction, monsieur Proust, entre l'onanisme et l'amour ? Proust, furieux, débusqué peut-être, lui jeta sa pantoufle à la figure. La chasteté, en fait, réussit mal à Emmanuel, gourmand en toutes choses. Il va se marier 3 fois, avec Jacqueline, une amie plus qu'une femme, avec Suzanne. Suzanne venait d'Aubervilliers, pays tragique. Elle avait un corps robuste, des mains rongées d'acide et beaucoup d'appétit, elle aussi. Berle dut d'ailleurs la partager avec André Breton. Enfin, il y eut la chanteuse Mireille, qui ne lui ressemblait en rien, et avec laquelle les premiers pas furent un peu difficiles.
Il se peut qu'à l'improviste, oh, il se peut très bien qu'un jour, je vous adore à mon tour. Et ce jour-là, vous aurez beau mettre mon cœur en lambeaux, vous aurez beau sans vous gêner, me tromper presque sous mon nez. Tous les matins, si vous voulez, bah vous aurez beau m'engueuler, vous aurez beau sortir le soir et rentrer complètement noir, vous aurez beau tout démolir dans ma maison, comme un buton, briser mon cœur et mon corps. Mais rassurez-vous sur mon sort, je ne vous aime pas encore.
J'ai toujours eu de bons rapports avec les femmes, sauf avec celles avec qui j'avais des rapports amoureux, naturellement, là, ça va beaucoup plus mal. Mais, en règle générale, d'abord, j'aime bien les écouter. Ce que Drieu n'aimait pas du tout. Drieu aimait qu'elle la boucle. Mais Drieu était très profondément misogyne. Mais moi, je ne suis absolument pas. Je trouve au contraire les femmes assez gentilles.
Oui, et quel plaisir trouvez-vous à leur conversation, puisque vous aimez les écouter?
J'aime les écouter parce qu'elles parlent d'elles. Et comme elle parle d'elle, c'est toujours assez intéressant. C'est quand les gens vous parlent abstraitement qu'ils risquent de devenir un peu ennuyeux. Mais les femmes, elles viennent me trouver parce qu'elles ont des problèmes. Ces problèmes sont vrais. C'est que leur fils vient d'être calé à l'école polytechnique, je sais pas. Et ça, c'est... J'ai un certain goût de la référence concrète. Que... Malraux me disait que c'était une des forces, une des faiblesses de mon esprit, que je me réfère toujours à ma concierge, au maître d'hôtel chez Béfour, etc. Ce qui me donne de la solidité, mais il dit que ça risque de rétrécir un peu les horizons. Mais alors, en effet, les femmes, c'est assez concret. Alors j'aime autant la conversation des femmes que celle des hommes.
Berle, qui a un côté immoraliste, trouve le journalisme commode. Il trouve en revanche que les positions dépendantes y sont mal commodes. À Monde, journal d'extrême gauche, où l'a amené Henri Barbusse, il tente de prendre sa place. Il n'y parvient pas. Fin de la brève période Aubervilliers prolétariat. Mais en 1932, quand Gaston Gallimard lui propose de prendre la direction de Marianne, là il accepte d'emblée. Hebdo de prestige, de gauche, enfin un peu centre-gauche, selon les cas, 100 000 exemplaires et qui pèsent davantage.
Entretien avec Emmanuel Berle par Jean d'Ormesson.
Vous avez été directeur de Marianne?
Oui.
Ou rédacteur en chef?
Non, j'ai été directeur de Marianne.
Alors, vous alliez tous les matins au bureau?
Ah oui.
Ça a été la seule occasion
de votre vie? Ah oui, c'était un travail très dur.
Ça a été la seule occasion de votre vie où vous avez eu un bureau?
Oui.
Vous avez aimé?
Pas du tout. Alors, j'ai eu des difficultés techniques considérables.
Il y avait des couleurs dans Marianne?
Non.
Non.
Mais j'ai eu des difficultés techniques très grandes. Vous savez, ce qui m'a donné peut-être le plus de peine dans Marianne, c'était ma page de mode. Vous comprenez? C'était très difficile.
Mais vous n'aviez pas quelqu'un à qui vous confiait ça et puis c'était fini?
Ah non. C'est moi qui les ai inventés. J'ai fait faire le premier article de beauté à Marcel Auclair.
Qui aviez-vous dans votre équipe?
Ah, j'avais une magnifique équipe. D'abord, Pierre Brossolette, dont je dois dire que je n'aurais pas prévu le destin historique. D'ailleurs, collaborateur extrêmement consciencieux et solide. Mais alors, j'ai eu une équipe très brillante, puisque oui. J'avais Marcel Achard pour faire le cinéma, Bourdet pour faire le théâtre, j'avais pas mal d'articles de Hériot, j'avais Eiffel comme dessinateur de base.
C'était éblouissant, ça devait être follement
très
amusant, non?
C'était très éblouissant.
Berle a pas de difficulté à affirmer son féminisme constant. Il est moins assuré dans ses positions de gauche. 6 février 34, il est enfermé dans le palais Bourbon, mais il donne l'impression de comprendre les manifestants d'extrême droite alentour, toujours se mettre dans la peau de l'adversaire. Il ne parvient pas non plus à condamner nettement l'agression de Mussolini en Éthiopie, ni à recommander l'intervention en Espagne, toujours la crainte de l'engrenage militaire. Écarté de Marianne début 1937, il sera munichois en 1938 et le restera toujours.
Vous avez appelé un de vos livres à contre-temps, alors il est peut-être le moment est peut-être venu de parler de vos positions politiques personnelles qui souvent ont été jugées à contre-temps.
Elles ont été très malheureuses, n'est-ce pas? Les amis que j'avais qui étaient tout à fait avec moi quand j'étais pacifiste sont devenus bellicistes à cause de Hitler et de Mussolini. Mais moi, ça ne m'avait fait pas changer, je trouvais ça très mauvais. Mais comme j'étais convaincu que la guerre n'arrange jamais rien, elle ne fait qu'aggraver les maux qu'elle combat, pour moi, Hitler ne devait pas être détruit par la guerre, il devait être détruit par la paix.
Vous le persistez à le défendre?
Oui.
Vous êtes, c'est intéressant, parce que je pense que vous êtes un des rares aujourd'hui.
Ben, effectivement, il y en a eu beaucoup à l'époque, puisque j'avais retrouvé un album qu'avait fait Le Petit Parisien, où il y avait 1100 000 signatures, qu'on arrivait à lire avec une bonne loupe, qui avait approuvé Munich, sans compter les 2 millions qui avaient souscrit pour donner une maison à Chamberlain pour le remercier pour Munich. Il y avait donc pas mal de Français munichois. Et chose curieuse, quand je suis revenu à la Libération, il n'y avait plus un. Mais je persiste à être, avoir été munichois, parce que je me suis dit, pourquoi désespérer plus de la paix qu'on ne désespère de la vie? Après tout, Hitler pouvait mourir, ou il pouvait être assassiné, il pouvait attraper la grippe.
La débâcle s'accélère maintenant. Débordé, bousculé par les éléments blindés, harcelé par les attaques aériennes, les troupes françaises se replient en désordre vers le sud. C'est l'agonie.
Je hais les mensonges qui vous ont fait tant de mal. La terre, elle, ne ment pas. Elle demeure votre recours. Elle est la patrie elle-même. Un champ qui tombe en friche, c'est une portion de France qui meurt. Une jachère de nouveau emblavée, c'est une portion de France qui renaît. Nous avons à restaurer la France. Montrez-la au monde qui l'observe, à l'adversaire qui l'occupe, dans tout son calme, tout son labeur et toute sa dignité. Notre défaite est venue de nos relâchements. L'esprit de jouissance détruit ce que l'esprit de sacrifice a édifié. C'est un redressement intellectuel et moral que d'abord je vous convie.
Ça s'est passé qu'il y a eu un premier message du maréchal Pétain qui disait qu'il faut cesser le combat, qu'on a considéré comme une gaffe. Alors j'ai eu plusieurs amis ministres qui m'ont fait chercher d'urgence à s'insérer pour que je revoie les papiers du maréchal Pétain et que je laisse pas passer une phrase trop malheureuse. Alors j'ai pris les papiers et j'ai rédigé comme j'ai pu. À ce moment-là, je crois qu'à Bordeaux, la France était pétainiste à 99,5%. Les socialistes étaient encore à l'intérieur du gouvernement. Je vois pas l'intérêt qu'il y avait à laisser des choses qu'il valait mieux pas dire dans son message, et pourquoi il aurait été préférable d'y coller des fautes de français artificiellement. Alors bon, j'ai écrit « La terre, elle ne ment pas » ou des choses comme ça, mais je ne croyais pas du tout faire de mal. J'ai fait mes discours de Pétain en piochant le message du général de Gaulle, en tâchant de pignocher dedans, c'est à quoi je suis pas arrivé. Je ne pensais pas du tout être en antagonisme même avec les gaullistes.
Berle, à tout faire, ne croit évidemment pas une seconde à ce qu'il dit de l'inspiration gaullienne qu'il aurait donnée aux deux, trois, voire davantage, messages du maréchal qu'il a contribué à rédiger. Mais il croit vraiment aux vertus de la terre française, l'une des plus merveilleuses productions de l'espèce et de la culture humaine. Avant-guerre, il considérait que les réfugiés affluaient trop nombreux. Juif, époux depuis 1938 de la chanteuse Mireille, juive également, ils se retrouvent tous deux dans une demi-clandestinité en Corrèze, protégé cependant par le préfet de Pétain jusqu'en janvier-février 1944. Les mois de la libération sont dangereux, les années qui suivent embarrassées. La réinstallation à Paris, où Berle n'a plus de place dans la société intellectuelle, est malaisée. Mireille et lui retrouvent peu à peu l'usage de leur appartement, en partie double, au Palais Royal. Ils ont à son sujet un numéro très au point. La partie dévolue à l'un, la partie dévolue à l'autre communique en effet par une porte marquée d'un feu rouge ou vert qu'actionne Mireille, qui a fondé dorénavant le petit conservatoire de la chanson.
De sorte qu'en effet, quand il se trouvait avec Malraux ou avec Herriot, ses amis, moi je me trouvais près de mon piano, de temps en temps avec Maurice Chevalier ou avec Pilcetta Bay, Jean Sablon ou Yves Montand, etc. Et j'avais peur, en effet, de l'assemblage, j'allais dire. Ça s'est admirablement arrangé. Ça n'a jamais, aucun moment, posé de problème. Moi, j'ai embêté quelquefois Malraux parce que je voulais qu'il fasse des paroles de chansons. J'ai embêté comme ça Camus pour la même raison. C'est moi qui étais assommant. Tout s'arrangeait avec une telle facilité. C'est tellement bien arrangé avec les élèves du petit conservatoire. Il y avait toujours un élève du petit conservatoire à côté, dans la cuisine, tout le temps. Je leur disais, allez garder Théodore. Et Théodore était mais enchanté.
Mademoiselle Hardy. Je vous connais depuis combien de temps, mademoiselle Hardy?
Depuis un an.
Depuis un an. Vous avez quel âge maintenant?
18 ans.
Vous avez 18 ans. Est-ce que vous avez l'impression, mademoiselle Hardy, que vous avez fait des progrès? Vous faites vous-même vos chansons?
Oui.
Votre musique et vos paroles?
Oui.
Expliquez-moi.
Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que j'ai fait un peu de progrès au point de vue de la fabrication des chansons. Oui. Mais... en interprétation, je ne suis pas contente de moi.
Vous n'êtes pas contente de vous? En interprétation, c'est ça?
J'ai beaucoup à travailler, je crois.
Qu'est-ce qui vous gêne? Est-ce que c'est la timidité?
Oui, bien sûr, j'ai le trac quand même.
Vous voyez comme vous parlez tout de suite un petit peu plus fort. Est-ce que vous avez l'impression que les chansons, elles, sont à peu près au point?
C'est très difficile à dire aussi parce qu'il y a la question d'accompagnement. Je m'accompagne pas tellement bien.
Vous savez que vous ne vous accompagnez pas très bien.
Oui.
Oui. Ah, comment s'appelle la chanson?
La chanson s'appelle La fille avec toi.
Ça s'adresse à un garçon, je suppose.
Oui.
Mais qu'est-ce qu'il y a, madame? Bon, voyons un peu.
Quelle était jolie la fille avec toi? Comme tu lui as dit que tu m'avais bien connue autrefois.
Il était donc constamment présent dans les coulisses du petit conservatoire. Et il va revenir lui-même sur la scène intellectuelle avec de grands livres, notamment Sylvia, son chef-d'œuvre, qui est le prolongement de son premier ouvrage, Recherche sur la nature de l'amour, l'amour toujours, et le thème numéro un, dorénavant, devient l'Europe. Dans la petite maison de Corrèze, il avait rédigé le tome 1 de l'histoire de l'Europe. Il commence la publication en décembre 1945, il est prévu plusieurs tomes, et l'idée c'est d'exposer le continent dans la longue durée et d'établir entre les pays les concordances, souvent les concordances davantage que les discordance. C'est amusant au moment où le jeune président Emmanuel Macron s'efforce de donner un nouvel élan à la construction européenne, d'écouter Berle parler de ses débuts avec un autre vieil acteur, François Mitterrand, qui a été ravi de converser longuement en sa compagnie. C'était sur France Culture en 1976.
On est en pleine période où l'Europe redevient au centre des discussions. J'aimerais bien vous entendre parler un peu de l'Europe.
Il n'y a pas d'Europe physique, raciale, ethnique. L'Europe de l'Atlantique à l'Oural, on n'aurait pas dû autoriser cette expression. Parce qu'un Russe ne sait pas quand il passe l'Oural. L'Oural n'a jamais été une frontière. Elle n'a jamais rien séparé. Donc, qu'est-ce que c'est que l'Europe? C'est une certaine convergence de projets successifs auxquels adhèrent certains et auxquels d'autres n'adhèrent pas. Il y a eu le projet, de, si vous voulez, de la défense contre l'islam, de la croisade pour les musulmans. Et puis, il y a eu le projet coloniser, de faire les grandes découvertes maritimes. Et puis, il y a eu le projet de l'industrie. Alors, mettons, l'Espagne était la plus européenne des nations au XVe siècle et la moins européenne au XIXe. Voilà ce que c'est. Alors, si on ne peut pas donner un projet commun aux Européens, il n'y en aura pas.
Et qu'est-ce que vous verriez aujourd'hui comme projet?
Malheureusement, je ne sais pas.
Est-ce que le projet politique actuel ne suffit pas, alors, à vos yeux?
Non, il faut qu'être européen signifie quelque chose, qu'on ne vit pas, qu'on ne pense pas, qu'on n'agit pas de la même façon que si on n'était pas européen. Et M. Monnet, j'ai été le voir, et j'ai parlé de ça avec lui, et il m'a dit, il ne faut pas faire ça, il faut créer l'Europe sans que les Européens s'en aperçoivent. Il voulait, Gulliver, qu'il se réveille pris dans un réseau, de cartels, de combines, où ils ne puissent plus se dégager. Ils ne voulaient pas créer un sentiment européen.
Ils ne voulaient pas ou estimaient ne pas pouvoir?
Non, je crois qu'ils ne désiraient pas. Ils désiraient justement l'Europe technocratique.
L'Europe marchande.
L'Europe marchande.
L'Europe marchande, a glissé François Mitterrand. C'est la haute époque où, premier secrétaire du Parti Socialiste, il s'appliquait à chaque occasion d'attaquer le capitalisme. En réalité, les deux hommes ne croyaient ni l'un ni l'autre à l'esprit de système. Et c'est ce qui rend, rétrospectivement, leur dialogue assez savoureux. À bien des égards, d'ailleurs, Berle était plus critique que François Mitterrand sur le monde marchand qui nous déshumanise, et il avait une vision plus écologique des lendemains que le futur président de la République. Donc François Mitterrand, Jean d'Ormesson, le jeune Modiano, Berle finira très entouré, il est emmitouflé dorénavant dans toutes sortes d'épaisseurs de vêtements, et il se fait une ressemblance avec le vieux Voltaire. Il a d'ailleurs aussi le rire qu'on prête à Voltaire. C'est également le rire de Paul Léoto qu'il a fait découvrir à la radio. Qu'avez-vous de plus intéressant à faire que d'être avec moi, disait-il aux jeunes femmes. Il parlait un peu comme Jean d'Ormesson. Les entretiens de Jean d'Ormesson avec Emmanuel Berle sont disponibles dans le commerce grâce aux éditions Radio France, un double CD que vous pouvez vous procurer. Nous avons aussi utilisé les archives du XXe siècle à la télévision, Jean-José Marchand, et beaucoup, et surtout, le livre qui vient de paraître aux éditions Vuibert, Emmanuel Berle, Cavalier seul, un livre signé d'Olivier Philippona et de Patrick Liénart. L'émission était préparée par Ilinka Negulesco, la réalisation Audrey Ripouille, à la technique Lucas Vaillant.